Culture d'Islam par Abdennour Bidar. France Culture, c'est dimanche, c'est l'heure de Culture d'Islam et aujourd'hui il sera question dans Culture d'Islam de l'énergie musulmane. L'énergie musulmane et autres richesses françaises, trois points de suspension, je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que comme toujours, Culture d'Islam commence en musique avec Jalaleddin Weiss, Julien Jalaleddin Weiss et l'ensemble Al-Kindi. Se virtuose suisse et allemand du Qanoun, auquel dans quelques temps nous consacrerons une émission spéciale. Aujourd'hui donc, dans Culture d'Islam, il va être question de l'énergie musulmane. C'est énigmatique, n'est-ce pas ? Bon, en réalité, c'est quelque chose de simple. Je reçois aujourd'hui Marc Chepsoun et Eliamine Setoul pour un livre qui a un format original. Marc Chepsoun, qui est son concepteur, nous en parlera dans un instant. Et c'est ce livre qui a pour titre « L'énergie musulmane et autres richesses françaises ». C'est un livre qui est paru aux éditions Philippe Ray, qui a été publié également par Multiculti Media, hein, qui est une association. C'est un livre qui est paru en 2015. Bonjour Marc Chepsoun.
Bonjour.
Et puis bonjour Eliamine Setoul.
Bonjour.
Merci d'être aujourd'hui avec moi dans Culture d'Islam. J'ai dans les mains un livre qui a un format, qui a une pagination tout à fait singulière. Quand on l'a en main, on ne sait pas si c'est un livre, si c'est un magazine. Je crois que c'est le deuxième exemplaire ou numéro. Donc de quelque chose qui oscille peut-être entre le livre et la revue. Marc Chepsoun va nous en dire un mot dans un instant. Je vous présente d'abord un petit peu. Vous êtes journaliste, éditorialiste, vous êtes auteur. Vous aviez fait notamment une des postfaces du livre de Morin et Singhaini, La France multiculturelle, qui est vraiment, je parle de ce titre, La France multiculturelle, paru chez Fayard en 2012, qui est vraiment, je dirais, le fil rouge de votre engagement intellectuel, éditorial, etc. Et puis, Eliamine Setoul, Alors, vous êtes chercheur associé à Sciences Po, c'est cela ?
Tout à fait. Je suis spécialiste des questions d'immigration et d'islam dans une perspective sociologique. Oui. Et j'ai fait une thèse de doctorat à Sciences Po sur le thème des militaires issus de l'immigration.
Et donc, Marc Chebsoun, aujourd'hui, vous nous proposez ce livre, « L'énergie musulmane et autres richesses françaises ». Alors, sans plus tarder, quelques caractéristiques de ce livre. Qu'est-ce qui le distingue ? Qu'est-ce qui fait sa singularité ? Et puis, je vous demanderai ensuite comment il s'inscrit dans votre parcours d'engagement, véritablement, au service de la reconnaissance ou de la visibilité de ce que Morin et Singhaini appelaient la France multiculturelle.
Eh bien, écoutez, c'est effectivement un objet un peu particulier, à savoir que on y retrouve à la fois de la fiction. Plusieurs écrivains ont participé aux deux numéros publiés. On y retrouve de l'image, on y trouve du journalisme avec plusieurs grands reportages et aussi des news et aussi du témoignage, de la prise de parole, des ateliers d'écriture également faits avec des jeunes dans toute la France qui ont contribué aussi au livre. Et l'idée finalement, c'est de faire un livre vivant, c'est-à-dire qui ouvre les imaginaires, qui ouvre des perspectives, qui soit un livre d'engagement dans des contextes particuliers, puisqu'ils sont conçus quasiment un an en amont de leur sortie, et qui a voulu, alors dès le premier numéro...
Oui, parce que là, ce dont on est en train de parler, comme je le disais, c'est le second numéro.
Absolument, hein, il y en a un par an.
Voilà, le précédent c'était 2014.
Le précédent c'était 2014, oui. Et sa thématique était un peu générique, c'était l'affirmation d'une France plurielle, ce qui rejoint effectivement les engagements que vous évoquiez. Ce deuxième-là, en fait, c'est conçu à travers des rencontres avec des lycéens, des enseignants, des collégiens, des étudiants, des parents d'élèves pendant toute une année. Et ces rencontres ont eu lieu à partir de fin janvier 2015, donc dans un contexte lié aux attentats que le pays venait de connaître. Et les thématiques sont construites aussi dans ces rencontres.
Donc un livre qui est hyper collectif.
Hyper collectif.
Voilà, qui fait parler la société civile dans toutes ses dimensions, en commençant par mobiliser les plus jeunes, et puis qui joue sur tous les registres. Hein, c'est-à-dire il y a de l'analyse sociologique, il y a du journalisme, il y a des témoignages, il y a des débats aussi, on va y venir hein, dans un moment. Vous avez dit quelque chose sur lequel je voudrais immédiatement rebondir. Vous dites, c'est un livre vivant qui ouvre les imaginaires. Vous employez, j'ai vu ça régulièrement sur le net, une expression plus précise. Vous dites qu'avec ce livre et également avec ce à quoi vous avez travaillé avant, il s'agit non seulement d'ouvrir les imaginaires, mais de décoloniser les imaginaires. Qu'est-ce Absolument. Que vous entendez par là ?
Alors, j'entends par là que nous sommes aujourd'hui, entre autres, le produit d'une histoire. Que cette histoire a marqué non seulement ce qui structure notre société, mais aussi nos imaginaires, nos manières de s'appréhender nous-mêmes, d'appréhender l'autre, d'appréhender la notion d'autre, la question de l'altérité, comment nous nous considérons, quelles limites nous nous posons et quelles limites nous posons à la rencontre avec l'autre. Et la référence à la question coloniale, elle est pour dire que la France était une terre d'accueil, un pays de rencontre, ça a aussi été une terre de domination. Et que, y compris... dans cette domination, des rencontres se sont produites. Des rencontres entre des personnes, entre des cultures, entre...
Oui. Avec cette différence que, par rapport aux époques de la colonisation, l'altérité n'est plus une altérité lointaine, mais une altérité proche.
Hein, Absolument.
C'est-à-dire... avec laquelle on est continuellement confronté au jour le jour.
Et que nous portons en nous. Je veux dire, ça fait partie à la fois de l'identité d'une société, ça fait partie de l'identité des individus, et forcément nos imaginaires sont aussi marqués par des relations dominantes. Ça existe, je pense que c'est important de les identifier, c'est important d'en prendre conscience, et c'est important d'ouvrir justement ces imaginaires.
Donc en fait, ce que vous nous proposez, c'est un livre de conscience de soi ou de prise de conscience de soi, hein, par rapport à des conceptions de l'altérité, de l'identité, par rapport aussi à des phénomènes historiques de domination, hein, qui invitent à dépoussiérer les imaginaires, à revisiter les imaginaires et donc à trouver une nouvelle conscience de soi. Alors Eliamine Setoul, en tant que sociologue, j'imagine que ce sont des notions dont vous êtes friand, hein, la notion d'identité, d'altérité, domination.
Je vais peut-être plus parler en tant que citoyen, parce que ce que dit Marc
Très volontiers, hein.
Me touche personnellement.
Oui. Mais attention, après je vous interrogerai quand même en tant que sociologue.
Avec plaisir.
Mais justement, c'est ça qui est intéressant, et je pense qui dans le livre est très fort, c'est qu'il y a une pluralité des identités de chacun.
Hein. Oui.
Vous n'êtes pas que sociologue, on ne va pas vous poser une étiquette sur la tête, sociologue.
Je suis sociologue et en tant que jeune issu d'immigration algérienne, je suis aussi l'objet de mes propres études. Donc je suis à la fois, il y a une réflexivité aussi à avoir.
Vous êtes votre propre cobaye.
Tout à fait. Même si c'est un cobaye parfois difficile à analyser. Mais pour revenir à ce que disait Marc, c'est vrai que moi je suis d'origine algérienne et plus précisément de la région de Sétif dans l'est de l'Algérie. Mm-hmm. Et comme le savent bien les historiens, il s'est passé il y a eu une histoire un petit peu douloureuse dans cette région puisqu'il y a eu une répression assez féroce des armées françaises. Et c'est vrai que je me souviens que quand j'étais enfant et surtout adolescent, j'avais une soif de mieux comprendre mon histoire personnelle. Et il y avait une espèce de...
Et vous étiez où à ce moment-là? Vous viviez où à ce moment-là?
J'ai grandi en France, en fait. J'ai fait toute ma scolarité en France. Et c'est vrai que l'éducation nationale, enfin les programmes officiels de l'éducation nationale, restaient relativement silencieux sur cette période. Et j'ai ressenti un manque. Et par la suite, c'est là que j'ai rencontré Marc, en fait, au début des années 2000, qui dirigeait un magazine à l'époque consacré aux questions de diversité. Et on sentait vraiment qu'il avait envie de créer un espace d'échange. Je me rappelle que les conférences de rédaction étaient ouvertes à tous. Mmh. Ils permettaient à tous les jeunes de venir et proposer un article. Et c'est vrai que cette activité de rédaction, d'une certaine manière, elle a permis de catharsiser un petit peu cette émotion et ce manque.
C'est ce que vous avez fait à ce moment-là? Vous avez proposé un article? Comment ça s'est passé? Quelle a été votre contribution?
Alors en fait...
C'était Respect Mag, hein. On va en parler un peu de Respect Mag, qui a été une grande aventure professionnelle et humaine pour vous, Marc Chepsoun.
Tout à fait.
En fait, beaucoup, Respect Mag a permis à de nombreuses personnes de se rencontrer.
Oui.
Comme je disais, c'était des conférences de rédaction qui étaient ouvertes à tous. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir une carte de presse. Il suffisait d'être un jeune et puis de proposer un sujet. Et Marc, si Marc considérait que le sujet était bien traité et l'article de qualité, eh ben, on était publié. Et on se rend pas compte à quel point le fait d'être publié, donc de donner sa voix, de participer à la vie démocratique, parce que c'est ça finalement, c'est donner la voix. On se rend pas compte à quel point ça fait du bien à de nombreux jeunes issus de quartiers populaires notamment.
Donc en fait, vous, c'est comme ça que vous avez rencontré Marc Chepsoun. Et alors on va passer un peu de temps peut-être là-dessus, hein, la généalogie Marc Chepsoun de votre engagement. Il y a eu d'abord à partir du début des années 2000 Respect Mag. Hein, donc l'aventure de Respect Mag. Vous êtes le fondateur, je crois, de Respect Mag.
Tout à fait. Ouais.
Alors le titre continue, mais aujourd'hui vous n'êtes plus engagé dans ce titre,
non,
c'est ça ?
Non, plus du tout.
Vous en êtes retiré en 2012. Alors, ce que je voudrais que vous nous expliquiez, c'est la continuité de votre engagement, parce que vous êtes un homme engagé sur ces questions de la reconnaissance de la multiculturalité, etc., et de la pluralité ou du pluralisme des identités. Et je voudrais que vous nous expliquiez ce que vous avez déjà fait avec Respect Mag, quelle était votre intention, comment vous avez conduit votre projet, et puis comment vous en arrivez, après avoir quitté Respect Mag, aujourd'hui à proposer ce nouveau format. Qu'est-ce que ça a de différent? Je rappelle le titre du livre, je me suis précipité sur l'énergie musulmane, qui n'est que le sous-titre en fait.
Absolument.
Parce que le titre c'est « D'ailleurs et d'ici ». Hein, je le dis bien à nos auditeurs, « D'ailleurs et d'ici », et ce numéro c'est l'énergie musulmane. Alors à partir de Respect Mag, qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, j'ai commencé à travailler sur la conception d'un magazine qui serait dédié à décoloniser les imaginaires.
On en parlait.
Et apprendre à vivre ensemble. C'était le sous-titre, la baseline de Respect Magazine à l'époque. Parce que j'ai toujours considéré que une société et tous ceux qui y participent devaient impulser la rencontre. La rencontre, aujourd'hui, est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'enfermement. Beaucoup d'enfermement dans des identités trop figées, qui ne se conçoivent pas dans le mouvement. Mmh. Et moi, je pense que ce qui peut nous porter tous ensemble, c'est le mouvement des sociétés et le mouvement des individus. Et donc, un magazine, un média, ça vient de médiation au départ, qui finalement consacre une reconnaissance de cette France plurielle et une nécessité de la rencontre et d'une production commune, était quelque chose qui, dès 99, puisque c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler au projet, me semblait quelque chose d'absolument essentiel. Je voulais aussi que la question de la pluralité de la société française ne reste plus un sujet périphérique, mais qu'il soit central.
Oui, des Respect Magazine, et je crois que c'est encore très sensible dans celui-ci, hein, d'ailleurs et d'ici, cette rencontre également à un autre niveau, c'est-à-dire montrer la pluralité, mais faire travailler aussi, c'est-à-dire faire intervenir.
Hein. Absolument.
Il n'y a pas d'un côté le journaliste professionnel qui va faire une enquête dans un milieu qu'il connaît mal, comme d'autres feraient un safari. Hein. Il va dans une banlieue lointaine où il n'a jamais mis les pieds avant. Et puis il y a les ausculter, les analyser, ceux qui sont l'objet. Vous avez voulu, des Respect Magazine, faire intervenir, ben, comme le disait Eliamine, hein, effectivement, des jeunes, leur donner leur chance dans l'écriture, dans, etc., pour qu'ils aient cette expérience extraordinaire de prendre la parole. Hein ?
Absolument, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, parce que je pense que la rencontre intergénérationnelle est aussi quelque chose qui nous construit. En tout cas, moi, qui m'a beaucoup construit.
Oui.
Et je pense que c'est aussi là aussi une source d'enfermement aujourd'hui, c'est que on est très, je dirais, un peu retiré dans un milieu social, dans une origine, dans une religion, dans une génération, et que créer cette rencontre-là, c'est une manière de s'interpeller et donc de progresser, et que cette rencontre, finalement, elle a un côté fondamentalement politique quelque part, parce que c'est le fondement d'une société, c'est de pouvoir justement échanger et construire ensemble.
Et s'interpeller, par-delà les frontières des tribus sociales ou culturelles.
Et si je me souviens
bien... Voilà, Yamine, en tant que sociologue, ces questions-là, donc l'interpellation par-delà les frontières, et puis j'aimerais vraiment votre regard de sociologue, votre regard d'observateur sur l'état des lieux que vient de faire Marc Chepsoun. C'est-à-dire, lui s'est engagé sur ces sujets au début des années 2000, enfin même avant probablement, bien sûr. Ça a évolué dans quel sens, sous votre regard
de
sociologue ?
Juste pour apporter une précision, c'est vrai qu'il y avait un mot qui revenait souvent dans la galaxie, on va dire Respect Max, c'était le mot décloisonné, je ne sais pas si tu te souviens.
Oui.
On voulait décloisonner en fait. On avait le sentiment qu'on vivait dans une société qui était extrêmement cloisonnée, extrêmement conservatrice. Et pour revenir à l'état des lieux auquel vous faites allusion, c'est vrai que Marc Chepsoun était un précurseur, parce qu'il faut savoir que jusque 2003-2004, la question de la diversité, elle est quasiment absente des médias. Hein. Personne parle des médias. Alors que Marc, je pense qu'il avait senti qu'il y avait un vrai malaise, qui a d'ailleurs abouti aux émeutes d'octobre-novembre 2005. Et pour cette raison, il avait une avance certaine par rapport aux autres médias et par rapport au débat d'actualité.
Oui, c'est sûr. Mais alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais... Non, est-ce qu'on en parle bien, et est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que ce que vous évoquez, c'est-à-dire la rencontre a impulsé, etc., le décloisonnement, ce fameux décloisonnement, dans quel sens est-ce que ça bouge aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant à cet égard, pardon, hein, mais c'est que au moins, votre livre, L'énergie musulmane, n'est pas dans la sinistrose. Voilà, c'est-à-dire que même si vous êtes capable de faire un certain nombre de constats critiques, c'est pas larmoyant, c'est pas misérabiliste, c'est-à-dire c'est pas les pauvres jeunes dans les pauvres banlieues.
Surtout pas.
Vous montrez au contraire l'énergie, alors musulmane, pas seulement musulmane, hein. Donc c'est un constat nécessairement complexe, hein, sur ce qui se passe aujourd'hui et sur l'évolution des choses.
Il me semble que c'est ambivalent. Si on regarde depuis les années 2000, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de la société, de sa diversité. L'islam, on peut dire ce qu'on veut, mais l'islam est en train de... Enfin, la tendance générale, c'est quand même une sédentarisation, une normalisation. On a des projets de mosquées un peu partout. On a l'armée qui a créé une aumônerie musulmane depuis quelques années. On a vraiment un islam qui est en train de s'implanter et de se sédentariser comme les autres religions. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du politique, est-ce que nos élites politiques ont pris en considération la gravité des problèmes de banlieue, des problèmes urbains, du chômage, des discriminations? À mon sens, pas assez, pour être honnête.
Peut-être qu'il faut distinguer deux échelles. Il y a les politiques au niveau national, mais on imagine que quand même au plus près du terrain, c'est-à-dire au niveau des collectivités locales, des mairies, etc.
C'est très variable, bien sûr.
Oui, voilà.
Mais on a quand même un discours qui dit que depuis le début des années 80, il faut casser les ghettos, pour reprendre une expression qui revient souvent. Mmh. Et on se rend compte que les banlieues populaires, elles n'ont pas changé structurellement, au niveau des problèmes. Moi, j'ai lu il y a quelques jours un ouvrage de François Dubé sur la galère. C'est un ouvrage qui est sorti en 1986.
Oui, qui est un classique.
Un classique de la sociologie. Et je peux vous dire que vous le lisez quasiment 30 ans après. Vous avez l'impression qu'il parle de l'actualité. C'est incroyable.
Oui. Mmh. Alors, quand même, effectivement, pour souligner ce que disait Yamine, il y a quand même quelque chose qui a vraiment changé. Mmh. C'est que vous faisiez référence à la création du premier magazine. Moi, je sais qu'en 1999, ce qui n'est pas très vieux quand même, poser ce sujet-là était considéré, je dirais, quasiment comme une obscénité. Ah oui. C'est-à-dire que vraiment, les gens me regardaient en me disant « Mais c'est incroyable d'oser poser des sujets pareils. Mmh. » Et ça, il y a quand même aussi, aujourd'hui, quand même un vrai changement. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins dans le déni de ces questions. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui tardent vraiment.
Voilà, alors qui tardent vraiment. Mais justement, à mon sens, c'est vraiment pour ça que je vous ai invité. Parce qu'il me semble que dans ce que vous avez fait avec ce livre, il y a quelque chose qui tranche. De la manière suivante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la diversité, on parle beaucoup des quartiers, on parle beaucoup des ghettos, ou de ce que Manuel Valls a récemment appelé les apartheid. Bon. Mais toujours sur le mode négatif, c'est-à-dire sur le thème de la relégation, on a l'impression qu'on a affaire à des espèces de zones mortes, hein, des zones de grande inertie, où il se passe jamais rien, et où tout est simplement en train de se casser la figure, de se dégrader lentement mais sûrement. Et vous, au contraire, hein, vous le disiez déjà dans Marc Shepson, dans une interview du Parisien, en 2011, que j'ai relu récemment, vous disiez, certes, la mixité dans ces quartiers en a pris un coup, mais les quartiers populaires sont super dynamiques. Et la valeur ajoutée de votre livre, c'est de montrer, c'est pour ça que le titre c'est l'énergie, hein, pas seulement l'énergie musulmane, que ce sont des lieux qui, non, ne sont pas uniquement victimes d'un processus de relégation, de dégradation, mais qu'il y a de la contribution à des choses qui se passent qui relèvent d'une vraie participation à la vie de notre société tout entière. Il y a de la créativité, il y a de l'inventivité, il y a de l'imaginaire, il y a des gens qui bougent, etc., etc. C'est ça que vous avez voulu montrer.
Absolument, mais vous savez, ça, d'ailleurs, c'est pas propre à la question des quartiers en France. Je veux dire, quand il y a exclusion, quand il y a discrimination, quand il y a domination, d'une certaine manière, les gens inventent. Ils inventent d'autres voies. Ils inventent d'autres langages. On le voit très bien, par exemple, avec toute la créativité des Noirs américains, qui est extrêmement forte, qui font aujourd'hui totalement partie de l'identité culturelle américaine. Regardez le blues, le gospel, etc. Dans chaque oppression, il y a une résistance. Et moi, ce qui m'intéresse plus encore que les oppressions, ce sont les résistances. C'est-à-dire, c'est les manières d'inventer, les manières d'innover. Et vous savez, dans cette fameuse méthodologie dont on a un peu parlé, qui est de d'abord écouter ce qui vient des gens. Quels sont leurs désirs? Quels sont leurs rêves? Quelles sont leurs envies? Quelles sont leurs peurs? Quelles sont leurs questions? Finalement, on se rend compte que quand on, d'une certaine manière, une actualité aurait tendance à vous abattre, vous trouvez aussi en vous d'autres ressources. Et que cette invention, elle est sur le terrain économique, elle existe sur le terrain économique, sur le terrain culturel, sur tous les terrains. Il y a des propositions qui, d'une part, permettent à ces populations d'exister et de ne pas seulement être exclues, opprimées ou discriminées, d'exister, mais qui apportent aussi une rénovation de la société, un potentiel en tout cas de rénovation qui est considérable et qui n'est jamais mis en exergue.
Ouais, alors justement, on va y venir, on va montrer en détail de quoi est constitué ce potentiel de contribution à la société dans son ensemble. Avant même cela, c'est-à-dire avant même de ce que vous nous expliquez, qu'est-ce qui se passe finalement hein, de ce côté-là, je voudrais qu'on comprenne bien que cette parole antidéterministe, parce que c'est ça, c'est une parole antidéterministe, hein, c'est-à-dire que les quartiers sont pas déterminés de façon fatale par la relégation. Et également, dans l'appropriation de la parole, dans la reprise de la parole, on ne laisse plus parler l'autre à sa place. Ça aussi, c'est complètement antidéterministe. Bon, il y a deux publics, à mon sens, pour ça. Le premier public, c'est le regard de l'extérieur vis-à-vis de ces quartiers qui, à partir d'une image médiatique complètement stéréotypée, va se les représenter comme des quartiers où il se passe rien et dont il n'y a rien à attendre, hein, aussi. Voilà, donc des quartiers qui pèsent sur la société comme un poids mort. Donc, un public qui serait volontiers, à partir de là, qui porterait un regard, qui serait facilement séduit par des discours politiques, notamment de l'extrême droite. Et puis, un deuxième public, à mon sens, qui est le public d'un certain nombre, d'ailleurs, vous le dites dans le livre, de jeunes en mal d'identification, qui pourraient eux aussi intérioriser une image négative du lieu où ils sont et de ceux qu'ils sont. Hein, je crois que vous avez voulu travailler sur ces deux imaginaires erronés qui nous font beaucoup de mal en tant que société.
Tout à fait. Et notamment, alors moi je ne me limite pas à travailler avec des personnes des quartiers populaires, je ne me limite pas à ces sujets. Par contre, je pense qu'ils représentent un véritable enjeu, une véritable dynamique possible, et donc je les intègre complètement. Pour moi, la France plurielle, c'est plus large que ça. Mais cette question-là, cet enjeu-là, sont totalement inévitables. Et pour revenir un peu à la démarche, si vous voulez, dès le premier numéro, j'ai voulu réunir plus de 40 personnes qui étaient, certes, des journalistes, des écrivains, des photographes, mais aussi des psys, mais aussi des artistes, mais aussi des entrepreneurs, des enseignants, des lycéens, deux classes de lycéens qui ont rejoint cette aventure. Et nous avons essayé de raconter cette France plurielle avec ses blocages, mais aussi avec ses dynamiques et avec ses potentiels, de la raconter d'une autre manière. D'où l'idée de faire intervenir le journalisme, la fiction, les ateliers d'écriture, les témoignages, l'analyse, et avec un haut niveau d'exigence. Et ce haut niveau d'exigence, c'est ça qui séduit. Il y a eu, suite au premier numéro de D'ailleurs et d'ici, au moins 2000 lycéens, collégiens, parents d'élèves, étudiants rencontrés, qui étaient extrêmement portés par cette aventure éditoriale et par son niveau d'exigence. Voilà, parce que ça, on a besoin aujourd'hui d'être tiré par le haut.
Vous l'avez distribué également, je crois, dans 250 associations,
oui,
c'est ça ?
Oui, absolument. Il a été offert à 250 associations.
Et qu'est-ce que c'est le but, là ? C'est de faire en sorte que dans ces associations, ça soit un support de débat, de dialogue, de rencontre.
Oui,
ça donne de l'inspiration aussi.
Ça donne de l'inspiration. Ça a été vraiment... les retours ont été... Ça nous permet d'exister. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu aller vers un bel objet, vers un beau livre, parce que le qualitatif, l'exigence aujourd'hui, c'est une manière finalement de dire aux gens, vous avez de la valeur. Vos idées ont de la valeur, vos vies ont de la valeur.
D'ailleurs et d'ici, l'énergie musulmane et autres richesses françaises sous la direction de Marc Chebsoun, c'est effectivement, j'en témoigne, un bel objet, je l'ai dans la main là. Eliamine Setoul, quelle a été donc votre contribution, votre participation plus particulière? Expliquez-nous
aventure. Alors moi j'ai écrit pas mal d'articles sur différents sujets, sur la question de la diversité dans le sport, dans l'armée, dans la police. J'ai beaucoup travaillé sur l'armée puisque, comme je l'ai dit en début d'émission, c'était le sujet de ma thèse et on ne le sait pas beaucoup. Mais
donc de votre thèse de doctorat en sociologie ?
En sciences politiques.
En sciences politiques, pardon.
En fait, on ne le sait pas, mais les armées françaises recrutent énormément dans les quartiers populaires. C'est quelque chose qui est assez méconnu, on n'a pas de statistiques ethniques. On sait que les meilleurs centres de recrutement sont souvent basés dans les banlieues françaises. Et ça aussi, ça va à rebours des représentations dominantes sur toujours l'idée de la désaffiliation sociale des jeunes.
Tout à fait.
De leur allégeance qui est souvent questionnée, Mohamed Merah, etc., toutes ces affaires un petit peu chaudes. Donc ça, c'est un exemple, à mon sens, qu'il faut valoriser.
Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, justement, sur ces engagements dans ces fonctions publiques.
Oui, sur la fonction publique.
Très lié à un sentiment d'appartenance.
Tout à fait, oui. Il y a toute une sociologie qui montre que beaucoup de jeunes issus de la diversité, entre guillemets, choisissent la fonction publique, notamment pour des raisons de méritocratie, parce que c'est des concours, parce que... Faut pas forcément avoir un réseau, etc.
On le voit beaucoup du côté de l'école aussi. Beaucoup de professeurs des écoles, d'enseignants sont issus de la diversité. J'emploie l'expression un peu stéréotypée.
Oui. Il y a toute une classe moyenne qui émerge aujourd'hui, qui est de manière très silencieuse, composée de professeurs, d'éducateurs, d'infirmiers, etc. Et c'est vrai qu'ils sont invisibles dans les médias. Très souvent, on parle soit des parcours de réussite extraordinaires, le sportif de haut niveau, par exemple, ou alors le jeune radicalisé, entre guillemets.
Et entre les deux, rien.
Alors que la majorité des musulmans se situe entre les deux.
Vous dites les musulmans.
Je dis pas les musulmans, je dis les musulmans parce qu'on est sur l'énergie musulmane, mais des Français, des confessions musulmanes, parce que c'est avant tout des Français.
Bien sûr, bien sûr. Et ben justement, on en arrive à ce titre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'énergie musulmane? C'est-à-dire, je m'explique, j'explique le sens de la question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de porter la focale sur le marqueur confessionnel de l'identité. Marcher alors, sur... ça, que... ça vous ressemble pas, à la limite, d'avoir mis l'identité musulmane en avant
Ben, une fois de plus, c'est une question d'écoute avant tout. C'est-à-dire oui. que les rencontres autour du premier numéro, hein, donc puisqu'il y en a un par an, ont eu lieu à partir de janvier 2015. Donc, comme je vous le disais, dans un contexte très particulier. Et j'ai vraiment senti, de la part des jeunes et musulmans et non musulmans, j'insiste là-dessus, c'était pas une revendication communautaire, mais un vrai besoin de tirer par le haut, finalement, cet apport des musulmans à la société française, ces évolutions, ces besoins de transmission, ces dynamiques culturelles, économiques, sociales, etc. Et donc, dans un contexte très violent, très difficile à vivre, vous savez, quand on s'adresse aujourd'hui à des jeunes entre 15 et 20 ans, comme ça a été beaucoup le cas en les rencontrant dans les collèges, lycées et universités,
oui.
on a quand même affaire à des générations qui sont nées ou ont grandi avec le traumatisme du 11 septembre. C'est quelque chose, je veux dire, il y a un avant et un après dans la manière de regarder la question de l'islam en France. Ce sont des jeunes
en Occident en général, d'ailleurs.
En Occident, mais moi je travaille sur la France
en particulier.
Voilà.
Bien sûr.
Et la nécessité de revaloriser aujourd'hui des identités multiples qui ne sauraient se fermer dans leur appartenance religieuse, mais qui en fait la vivent généralement de manière très harmonieuse avec leur citoyenneté, avec leur contribution à la société. C'était un besoin qui a été exprimé très massivement et d'une manière qui était très convaincante.
Oui, bon, de toute façon, c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui dans Culture d'Islam, hein, parce que justement, il y a ce lien avec la question de la culture musulmane. Et vous la décrivez, j'ai beaucoup aimé hein, vraiment le terme que vous employez, vous la décrivez aujourd'hui comme la culture des mutants.
Oui.
Hein, c'est, je crois, le chapiteau de votre éditorial.
Oui.
Hein, vous parlez des mutants. C'est-à-dire que, contrairement justement à un certain nombre de représentations stéréotypées du musulman qui n'est défini que par son islam et qui, à cause de son islam, se tient en dehors de la société, hein, je vous fais la phrase complète, eh bien, non, au contraire, est engagé de façon complètement, c'est même pas décomplexé, mais de façon complètement naturelle, spontanée, dans une logique de contribution sociale avec d'autres qui ne sont pas de confession musulmane. Donc, qui sont ces mutants. Eliamine, c'est tout là.
Bah, ces mutants, c'est. Alors, je suis pas sûr d'être dans le vrai. Marc peut-être précisera. Mais je pense que c'est cette seconde génération de culture musulmane qui a un héritage culturel de musulmans malikites et qui cherche à trouver sa place et sa voix dans cette société française.
Et qui compose avec des tas de sources possibles. Qui sont faites d'héritage, qui sont faites de choix, qui sont faites de désirs, qui sont faites de rencontres, une fois de plus. C'est-à-dire vraiment, c'est un mot qui a surgi de nos ateliers d'écriture. Ce sont des jeunes eux-mêmes qui nous ont dit, mais en fait, nous sommes des X-Men, nous sommes des mutants. C'est-à-dire que nous prenons ici, ailleurs, dans ce qu'on nous a raconté, dans ce qu'on nous a pas raconté, dans ce qu'on nous a transmis, dans ce qu'on nous a pas transmis, et dans notre libre arbitre. Nous prenons tous les éléments qui nous composent aujourd'hui. Et ça, si vous voulez, c'est là que je fais le lien entre le mouvement des individus et le mouvement d'une société. Si la société française pouvait se saisir de ce désir-là en particulier, de ce désir d'ouverture, de construction plurielle, si elle pouvait en faire vraiment quelque chose pour elle aussi, ça serait tout à fait extraordinaire, parce que le potentiel existe.
Ya Rasoul Allah, hiya khayr al-bari,
c'est la semaine prochaine que nous consacrerons un hommage à Julien Jalaluddin Weiss et à son ensemble Al-Kindi, qui ici accompagne la voix sublime du Cheikh Hamza Shakour. Culture d'islam. Aujourd'hui, je reçois dans cette émission El Yamin Setoul et puis Marc Chebsoun, qui tous les deux ont contribué, Marc Chebsoun a dirigé, un livre intitulé « D'ailleurs et d'ici » et sous-titré « L'énergie musulmane et autres richesses françaises ». Alors je lis quelque chose dans votre éditorial, Marc Chebsoun. Vous dites que avec cette énergie musulmane, vous avez voulu, je cite, « mettre à l'honneur ces citoyens qui puisent dans leur foi » parmi d'autres ressources, pas seulement dans leur foi, mais entre autres dans leur foi, et parmi d'autres ressources qui puissent donc un fondement de leur engagement éducatif, entrepreneurial et solidaire. Alors je voudrais maintenant qu'on prenne un certain nombre d'exemples de ces gens, hein, jeunes et moins jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont de confession musulmane. Alors à la fois on va le dire et puis en même temps on va pas tout réduire à ça, c'est un élément de l'identité parmi d'autres, mais qui puisent justement dans cette partie de leur identité et dans les autres l'énergie, cette fameuse énergie qui leur permet de s'investir, de créer, d'inventer. Et puis, grâce à vous, grâce au porte-voix que vous leur donnez à travers ce livre, eh bien de montrer au reste de la société française que ça bouge aussi du côté de la France multiculturelle, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs. Hein. Alors, Marc Chebsoun, un certain nombre de ces exemples, à quoi pensez-vous spontanément, parmi tous ceux que vous mobilisez dans le livre, de ces parcours caractéristiques de mutants, hein, qu'on évoquait à l'instant?
Oui, et qui confirment, en fait, le fait que leur foi est effectivement pour eux, pour ceux que nous avons rencontrés, un élément de construction, de référence, et sans exclusive. Voilà, et ça... En fait, on a rencontré beaucoup de gens. Il a fallu faire un choix parce que effectivement, oui, toutes les personnes ne pouvaient pas être représentées dans le livre. Il y a des parcours absolument extraordinaires. Je pense par exemple à Samia Essaba, qui est enseignante et qui explique que sa foi l'a particulièrement insensibilisée à d'autres types d'exclusion que ceux dans la communauté musulmane, par exemple. Pouvait subir. et qui a particulièrement travaillé sur la question de l'antisémitisme avec ses élèves, en les emmenant notamment au musée de Washington, parce qu'il y a, un travail, j'irais, multi-communautaire qui a été fait sur le musée de Washington, qui est tout à fait passionnant. Je pense à ce jeune entrepreneur qui a créé un tapis de prière pliable, écolo et isotherme, et qui a remporté plusieurs prix justement pour son innovation entrepreneuriale. Je pense...
On peut prier sous la pluie, quoi.
Voilà, c'est absolument... mais ces gens parlent de leur travail avec passion, avec humour, avec... voilà, avec humour aussi. C'était aussi important dans la période où on essaie de montrer que... Il y a notamment des humoristes qui ont été invités, comme Samia Oroseman, par exemple. On a parlé de quelqu'un comme Samia Atroui, qui fait un travail extraordinaire dans la connaissance réciproque entre juifs et musulmans, et qui travaille à des initiatives communes, à une réflexion commune, c'est-à-dire à une vie, finalement, commune. Parce que quand on travaille ensemble, quand on agit ensemble, quand on réfléchit ensemble, on vit ensemble. Le vivre ensemble ne doit pas être une espèce d'incantation, comme ça. Alors, ces gens leur lui donnent du sens, de la vie, de l'énergie.
Ce que je trouve particulièrement intéressant, alors Eliamine Setoul nous dira aussi ce qu'il en pense, mais c'est que la foi, finalement, telle qu'elle est présente dans votre livre, c'est ce que Bergson appelait de l'énergie spirituelle. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelque chose qui sert à se mettre sur un tapis de prière et puis à entretenir une relation avec Dieu, c'est quelque chose qui va inspirer l'individu, qui va lui donner une espèce de vitalité créatrice, qui va lui donner plus de force ensuite pour agir dans la cité avec les autres, et une ouverture, je dirais, allons-y, disons les mots, une ouverture du cœur, hein, qui est importante.
Tout à fait, on pourrait multiplier les exemples. Moi j'ai participé à une conférence il y a quelques semaines sur le sport, en fait.
Oui.
Et il y avait un étudiant qui présentait ses conclusions et qui montrait comment, en fait, il y avait des puissantes affinités électives entre la foi musulmane et la pratique du sport. C'est-à-dire qu'il y avait une rigueur corporelle par rapport à l'ascèse, par rapport à la non-consommation d'alcool, par exemple, par rapport au ramadan. Le fait de s'imposer une rigueur fait que c'est une ressource qui peut se convertir en capital sportif, en fait. Et c'est un facteur de réussite. Un autre exemple, moi je pense souvent à ce verset, bon je suis pas islamologue comme vous, mais je pense souvent à ce verset sur la sacralisation du savoir, aller chercher le savoir jusqu'en Chine.
Ça c'est une parole, c'est un hadith du prophète.
C'est un hadith, tout à fait. Et moi qui ai fait un doctorat à Sciences Po, qui vient plutôt d'un milieu ouvrier, je vois des jeunes issus de l'immigration, notamment de culture musulmane, et on retrouve chez leurs parents ce message-là. C'est-à-dire que ils sacralisent le savoir et en une génération, ils sont passés quasiment de parents analphabètes à des doctorats dans des écoles extrêmement reconnues.
Oui, oui, oui. Ce hadith, souvent, j'y pense moi-même et puis je me dis qu'en réalité, ça veut peut-être dire, entre autres, hein, parce que ce sont des grandes phrases comme ça qu'on se transmet de génération en génération, que finalement, tant qu'on n'est pas en Chine, on n'a pas trouvé le savoir. Hein, c'est-à-dire que le savoir ou la sagesse est toujours très très loin et beaucoup plus loin que le reste. Voilà, non, c'était juste une petite digression. Alors justement, vous citez le cas de sportifs, vous citez le cas d'enseignants, vous citez le cas d'entrepreneurs. On a l'impression, en lisant les témoignages et les articles, hein, de ce livre, que ça bouge un peu partout en Europe. Mais que, malgré tout, la France est souvent un petit peu à la traîne. Hein. Alors, par exemple, vous citez des initiatives, justement, de contribution de cette jeunesse de culture musulmane à la vie sociale, mais beaucoup ailleurs et un peu moins en France. Alors, je prends deux exemples. Par exemple, alors je ne savais pas, vous parlez du Ramadan Festival.
Oui.
Alors, ce Ramadan Festival se tient depuis 2005 dans 9 villes aux Pays-Bas. Hein. Donc, c'est une occasion pour les musulmans, à ce moment-là, de s'ouvrir et de faire des portes ouvertes, en quelque sorte, hein, de rencontre, impulser la rencontre, disiez-vous tout à l'heure, avec l'ensemble de la population néerlandaise. Ça a essaimé, manifestement, en Belgique, et dites-vous, en 2010, dans 42 villes européennes. Moi, j'en ai pas entendu parler en France.
Notamment à Londres, pendant les Jeux Olympiques.
Voilà. Et la France,
les Jeux Olympiques se passaient pendant le Ramadan.
Ah oui.
Oui.
Et en France, alors, ça a essaimé ce mouvement ou pas?
Écoutez, il y a des initiatives qui se font au niveau associatif, au niveau local, etc.
Oui.
Il y a relativement peu de soutien. Ce qui est formidable dans ce Ramadan Festival, c'est la participation de la municipalité et de l'État.
Mmh.
C'est-à-dire que c'est, aujourd'hui, ça fait partie, j'irais, de ce festival fait partie de l'identité culturelle du pays. Vous voyez, c'est quelque chose. D'ailleurs, il y a des touristes qui y vont aussi pour cette période, etc. Il y a une valorisation, une dynamique qui est encouragée par la ville et par l'État, qui, je dois dire, oui, fait aujourd'hui encore défaut en France. C'est-à-dire qu'on a du mal finalement, à comprendre en quoi les dynamiques venant de certaines populations peuvent représenter des dynamiques pour l'ensemble de la population.
Et qui est-ce qui a du mal à comprendre ça? Parce qu'on a l'impression, en lisant ce que vous avez écrit, qu'il y a aussi une responsabilité partagée. Hein, c'est-à-dire que peut-être qu'en France aussi, du côté des quartiers ou du côté de cette France multiculturelle, on ose moins qu'ailleurs. C'est-à-dire que la responsabilité est la responsabilité effectivement des municipalités, des élus, etc., etc. Mais peut-être qu'il y a un manque d'audace, un manque d'initiative aussi.
En même temps, quand les choses se font, elles sont peu soutenues, peu valorisées,
oui, ça c'est sur
peu
quoi
médiatisées.
Vous voulez insister, oui.
Hein, voilà. D'accord. Et évidemment que il y a une question de réciprocité aussi là-dedans. C'est-à-dire que ça prend vie ensemble, la bouillonnesse prend ou elle prend pas, et que malheureusement, c'est vrai qu'il y a très peu d'audace aujourd'hui à encourager. Ce type de choses.
Ouais, alors il y a très peu d'audace, mais par exemple, je prends la deuxième initiative qui m'a marqué. En 2015, le Muslim British Council, hein, oui. MBC, lance une campagne, Visit My Mosque. Je traduis, hein, pour ceux qui sont vraiment pas bons en anglais, Visite ma mosquée. Et donc ce sont des journées portes ouvertes qui sont organisées par les mosquées du Royaume-Uni. Et là encore, vous dites, ça a été viral, c'est-à-dire ça s'est répandu beaucoup, hein, dans le probablement d'ailleurs pas uniquement au Royaume-Uni. En France, on n'en a pas entendu parler. On a l'impression qu'il y a aussi là une frilosité du côté de la communauté musulmane. Vous citez une initiative à Lens, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu modeste et un peu isolée, non ?
Il y en a eu très récemment. Oui, là, ce dernier mois, il y a eu pas mal de mosquées qui se sont ouvertes un peu sur ce modèle-là.
Oui.
Et c'est-à-dire pour faire quoi ? Pour proposer quoi ?
Pour montrer, déjà pour un peu... parce qu'il y avait toute une anxiété autour des mosquées, comme quoi ce serait peut-être un repère d'embrigadement, etc.
Là, on sait que certaines, c'est le cas, mais ouais, effectivement, le problème, c'est toujours la généralisation.
Tout à fait, et beaucoup de mosquées se sont ouvertes, notamment ce dernier mois, c'est vraiment très très récent, mm-hmm. pour justement proposer le thé aux personnes et qu'elles visitent en fait, qu'elles voient ce que c'est un lieu de culte musulman.
Mm-hmm. Oui, non, il y a eu effectivement en janvier là plusieurs initiatives de ce type. Ce qui nous manque, je dirais, c'est quand même l'ampleur. Voilà, la plupart des gens, en fait, en dehors des médias, je dirais spécifiques, hein, qui en ont parlé, n'ont pas entendu parler de ces portes ouvertes. Mmh. Alors qu'une fois plus, dans le contexte particulier où nous vivons aujourd'hui, ça aurait été d'autant plus important que l'information circule, que des gens puissent y aller, mais aussi que ceux qui n'y seront pas allés, sachent que ça existe, que ce désir d'ouvrir ses portes, parce que c'est un geste important d'ouvrir sa porte. Mmh. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce Ramadan Festival, c'est que les foyers s'ouvrent,
oui,
les tables s'ouvrent.
Vous mobilisez aussi une autre initiative qui est l'ouverture de sa porte, de la porte de son domicile privé.
Hein, oui.
Des familles musulmanes qui invitent des familles non musulmanes à venir les rencontrer.
Tout à fait. Tout à fait.
Mais c'est très 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 minoritaire ce genre d'initiative.
Ça reste très minoritaire et le fait que ça soit très peu valorisé, très peu médiatisé, très peu soutenu n'entraîne pas non plus le fait que ce type d'initiative se démultiplie.
Et alors, il y a aussi quelque chose qui ajoute peut-être à la frilosité, c'est que on le sait très bien, notre contexte français, médiatique, intellectuel, politique est sursaturé par la question de l'islam. Et à partir de là, ça anesthésie peut-être aussi un certain nombre de bonnes volontés qui seraient tentées de dire spontanément, il faut que nous mettions en avant un islam ou un rapport à l'islam, un rapport à la religion qui est non seulement ouvert, tolérant, etc., mais qui est complètement inscrit dans la réalité française, qui participe à la vitalité française. Peut-être qu'il y a une forme de retenue parce que l'individu se dit « Ah mais non, quand bien même ce serait avec les meilleures intentions du monde, je ne vais pas en remettre une couche sur l'islam et encore remettre l'islam en avant. » Et on voit par exemple que ce débat, vous lui donnez écho dans vos colonnes, par exemple à travers un débat qui m'a beaucoup intéressé entre Rokhaya Diallo et Ousmane Diagne à propos des attentats et du « Not in my name ».
Hein. Oui.
Est-ce qu'à ce moment-là, il faut que les musulmans montent au créneau ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'ils se taisent en disant « ce n'est pas ma responsabilité de monter au créneau ». Et on voit vraiment cette opposition entre Rokhaya Diallo, par exemple, qui dit « non, il me semble que les musulmans n'ont pas à une nouvelle fois à manifester leur attachement à la France, leur attachement aux valeurs, etc., etc. Il y en a marre de cette suspicion qui nous oblige à chaque fois justement à faire profession, à renouveler notre profession de foi républicaine ou française. Et puis en face, il y a Ousmane Ndiaye, qui est un journaliste, Roca Diallo, on la connaît bien, elle était éditorialiste, qui dit non, au contraire, je le cite, la violence commise au nom de l'islam me conduit à prendre position, et dit-il, sans doute plus que les autres. Voilà. Donc c'est aussi ce type de débat auquel il faut donner écho, Yamine.
Et c'est vrai que c'est pas facile parce que d'un côté, on a envie de montrer notre attachement à la République, etc.
Oui.
Mais d'un autre côté, il faut dire aussi que certains sont usés parce qu'ils sont là depuis parfois 3-4 générations. Et d'une certaine manière, il y a une espèce d'usure parce que les gens, les citoyens se posent la question quand est-ce que je serai vraiment considéré comme un Français à part entière. Donc il y a ces deux, dimensions qu'il faut prendre en compte.
Oui. En même temps, bon, c'est sûr qu'on peut être usé, mais il y a aussi cette énergie. Hein. Encore une fois, vraiment, hein, c'est ça qui me paraît important dans votre livre, c'est-à-dire que certains ont décidé de prendre les questions à bras le corps.
Mais c'est vrai que les derniers attentats, de par leur ampleur, elles ont créé un électrochoc. Et j'ai l'impression que il y a aujourd'hui un clivage dans la communauté musulmane, si on peut parler de communauté, entre ceux qui considèrent que non, il faut rester discret et puis on est français comme tout le monde, et ceux qui disent non, il faut montrer aux Français que on est vraiment contre ces exactions et ces actes de terreur, quoi.
Oui, alors, d'abord, je pense que... Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que le débat existe.
Ah oui.
Et qu'il est important.
Tout à fait.
Et que chaque position est tout à fait entendable. Et d'ailleurs, chaque position, comme dans les vrais débats, éclaire, d'une certaine manière, la position de l'autre. Il y a effectivement, comme vous le disiez, celle de Roca Diallo. Je résumerai par, en gros, à partir du moment où on exige de nous une réaction, il ne faut pas en avoir parce qu'on tombe dans un piège. La position d'Ousmane Ndiaye, qui est journaliste à Courrier International, qui est de dire, quel que soit ce qu'on exige de moi, et je refuse d'ailleurs qu'on exige quelque chose de moi, mais mon libre arbitre, c'est de me positionner parce que je veux me positionner. Mmh. Et la troisième position d'ailleurs de Samia Atroubi, qui est aussi intéressante, qui est de dire, d'une certaine manière, si les organisations, par exemple anglaises, ont tellement populariser ce message, not in my name, c'est parce qu'elles ont l'habitude de pouvoir se positionner aussi, pareil, pas de manière exclusive, mais aussi à partir de leur foi. Donc finalement, ils ont un peu échappé à ce thème de l'injonction à devoir se positionner. Mais une fois de plus, ce qui est important, c'est de pouvoir débattre et compléter ces idées. Et sur les dynamiques et les initiatives, moi, j'ai participé pendant le seul mois de décembre à plus de 10 rencontres à Bordeaux, Marseille, Paris, en banlieue, Clermont-Ferrand, dans plein de villes. Et il y a énormément de monde qui viennent. Beaucoup de musulmans qui viennent, beaucoup de non-musulmans qui viennent, des jeunes, des moins jeunes, des enseignants, des parents, etc. Je suis très impressionné par les demandes qui existent et les demandes de sens, les demandes de débat. C'est-à-dire que vraiment, on se dit des fois, quand on regarde les médias français, leur manière de traiter ce sujet, que on tire quand même les gens vers le bas. Parce que les demandes de sens, d'enrichissement, de compréhension et d'échange, elles existent.
Les demandes aussi de rencontres par-delà les frontières. On en parlait hors antenne avant l'émission. Il se trouve que tout au long de l'année, j'anime à l'Institut du Monde Arabe un grand cycle de rencontres que j'ai intitulé « Questions philosophiques à l'islam contemporain » où on met sur la table toutes les questions relatives à l'islam. Et c'est impressionnant. Le constat que vous faites, je le fais également. C'est-à-dire que ce sont des questions qui intéressent énormément. On a un public très nombreux, très jeune, qui a soif de discuter, qui a soif aussi de poser la question qu'on a abordée dans l'émission, c'est-à-dire la question du sens, la question de... Alors, que certains vont aborder à partir de la foi religieuse, mais pas seulement, c'est vraiment la question du spirituel de l'existence, c'est-à-dire tout ce qui nous fait grandir en tant qu'être humain, hein, qui est importante. Et vous avez voulu mobiliser dans ce livre, c'est le dernier thème qu'on va aborder dans cette émission, le temps passe très très vite, justement, des gens qui prennent aussi des positions qui sont pas faciles du tout, qui sont très très courageuses. Je voudrais qu'on en cite deux. Il y a d'abord le cas de Nasreddine Erami, Oui. Je voudrais que vous nous en parliez un petit peu. Et puis le cas de Hanan, le cas, ce sont pas des cas, hein, ce sont des engagements, ce sont des engagés. L'engagement de Hanan Karimi. Alors, qui sont ces deux engagés? Quel est le sens de leur combat?
Ce qu'on a voulu montrer, c'est que parmi les musulmans de France aujourd'hui, il y a, comme dans tout type de population, des gens qui sont plutôt conservateurs, des gens qui sont plutôt, je dirais encore plus que conservateurs, il y a des gens qui sont en questionnement, et il y a des avant-gardistes, comme partout.
Exactement.
Voilà. Et on a voulu donner, je dirais, la parole, finalement, à cette diversité-là aussi.
Et à ces avant-gardistes. Donc ces deux-là, en l'occurrence, qui ont des combats particulièrement singuliers et des combats à double front.
Double front, absolument. Alors, Hanan Karimi se définit comme une féministe et une féministe musulmane, c'est-à-dire qu'elle interroge à la fois la perception de la société française des musulmans et de l'islam de France, et à la fois la perception de l'égalité entre hommes et femmes, de la participation des femmes. Elle avait notamment animé le collectif Femmes dans la mosquée.
Et puis elle a été l'auteur d'un haut fait absolument incroyable. Elle a fait irruption à la mosquée de Paris dans la salle de prière réservée aux hommes. Hein, c'est quand même extraordinaire ça. Ça mérite d'être vraiment salué.
Et ce que je trouve tout à fait passionnant dans son combat, c'est cette manière justement de ne pas choisir entre un combat et un autre, mais de dire voilà, nous voulons à la fois interroger de l'intérieur une, pour aller vite, communauté sur ses blocages, sur ses nécessités d'évolution, etc. Et on veut poser, en termes de féminisme, la nécessité d'une évolution dans l'égalité entre hommes et femmes. Et en même temps, dire, je ne vais pas faire le jeu de ceux qui disent finalement, c'est un problème intrinsèque à l'islam, c'est un problème communautaire, non. C'est aussi une manière de dire, considérez les musulmans comme vos égaux, comme des gens qui ont les mêmes combats, les mêmes exigences, les mêmes besoins d'égalité.
Je crois qu'il n'y a pas une communauté musulmane, en fait. Il y a vraiment des musulmans, mais il n'y a pas de communauté musulmane. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ils sont pris en tension, finalement, entre le processus sociologique d'individuation. Aujourd'hui, on a de plus en plus des jeunes qui se bricolent, d'une certaine manière, leur islam.
Quel est le phénomène sociologique à peu près majoritaire?
Tout à fait, ce que Daniel Hervieux-Léger a montré dans ses analyses sur la modernité religieuse.
Sur les identités religieuses,
Tout à fait. Et donc, une individuation du croire musulman. Alors, on respecte certains rites, on n'en respecte pas d'autres. On mélange à d'autres cultures philosophiques, religieuses, le syncrétisme, etc., etc. Donc, cette tension entre cette dynamique-là et une autre dynamique qui est le discours par le haut, qui est quand même un discours de stigmatisation, souvent, pour les musulmans de France, et qui contribue finalement aussi à communautariser, parce que quand on humilie des groupes et on les rabaisse, ça a tendance un petit peu à les homogénéiser, au moins en termes d'expérience et de subjectivité. Et donc, on est vraiment entre cette tension autour de ces deux dynamiques.
Bah écoutez, je préfère qu'on retienne le premier élément de la dynamique, parce que c'est celui qui est le plus intéressant. Et puis, comme l'inventivité, l'énergie, la créativité de son côté, c'est lui qui finira par l'emporter sur la sinistrose. Je rappelle le titre du livre, « D'ailleurs et d'ici, l'énergie musulmane et autres richesses françaises ». Eliamine Setoul, merci beaucoup.
Merci à vous.
Marc Chepsoun, qui avait donc conçu ce livre dans le droit fil d'un long engagement. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci dans Culture d'Islam. Et on termine avec Julien Jalaluddin Faïs et l'ensemble Al-Kindi. C'était Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Aujourd'hui, nous avons reçu Marc Chepsoun et Eliamine Setoul pour un magnifique ouvrage que je vous recommande, très agréable à lire, à regarder et très engagé. D'ailleurs et d'ici, l'énergie musulmane et autres richesses françaises. Vous retrouverez de toute façon toutes les références des livres et des musiques de l'émission du jour sur le site franceculture.fr. Je remercie pour la préparation et la réalisation de cette émission mon attaché de production Dominique Compétissard, à la prise de son Bruno Mourlan et à la réalisation Franck Lillin. quelques instants sur France Culture, vous retrouverez Louise Touré et la rue des écoles.